Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue sur Radio Okapi. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qui nous concerne tous, le patriotisme. Comment nos traditions et nos cultures peuvent-elles nous aider à bâtir un avenir meilleur pour notre pays? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Andera Baliamou, membre de l'organisation Ubuntu. Il travaille actuellement sur le projet Jiwe Langu kwa Usalama wa Kivu, traduisez ma pierre pour la paix du Kivu, une initiative visant à renforcer la paix dans les territoires des Beni. Monsieur Baliamou va nous éclairer sur trois aspects essentiels: le rôle de nos traditions dans la construction d'une armée nationale forte, leur contribution au développement de la RDC et enfin, comment elles peuvent favoriser le développement de notre intelligence collective. Je suis Rosalie Zawadi, merci d'être avec nous.
Radio Okapi.
À Goma,
Okapi.
Sur 95.5 FM.
Okapi.
Chers auditeurs et auditrices des radios Okapi, et bonjour. Pour commencer notre réflexion sur le patriotisme, notre invité, M. Andera Baliamou, nous explique comment la connaissance de notre identité culturelle est le socle sur lequel s'est construit un sentiment patriotique fort.
En fait, c'est notre identité qui construit notre patriotisme. Et là, il faut dire que les Congolais ne se connaissent pas. Et comme ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas comment aimer leur patrie. Et quand on parle de nos identités, qui serais-je sans parler de ma mère? Qui serais-je sans parler de mon grand-père? Qui serais-je sans parler de ma culture? Être mouchi, par exemple, puisque je suis de culture chi, ne signifie pas seulement s'appeler Baliamou. Ça signifie, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon d'agir, il y a le mouchi dedans. Et le mouchi dedans, c'est d'abord l'histoire, la culture, la tradition. Quand je dois faire la guerre, je dois me poser la question. Un jeune homme chi, quand il est attaqué, quelle est sa réaction? La fuite? La réflexion? Ou bien il attend l'aide d'un Européen? Dans la culture, nous avons tout ce qu'il faut pour notre identité. Si tu vis selon la culture d'un étranger, donc tu es déjà étranger à toi-même. Et pour aimer ces pays, nous devons nous assurer que nous connaissons la culture ou les cultures de ces pays.
Nous allons parler de patriotisme à différents niveaux. Commençons par l'armée, parce que vous avez évoqué l'aspect sécuritaire chez les Mouchis, mais de manière générale, en RDC, comment puiser dans nos cultures, comment puiser dans nos traditions pour renforcer, pour avoir une armée forte?
Dans nos traditions, d'abord, il y a la connaissance de nous-mêmes. Si tu ne connais pas ta tradition, tu ne te connais pas. Ça, c'est le premier. Deuxième chose, comment mourir pour un pays qu'on ne connaît pas? On doit nous apprendre le Congo. Cette histoire qu'on enseigne de première CO à quatrième CO, c'est Mérovingien, c'est Richard Cœur des Lions, c'est la France, c'est l'Himalaya, c'est l'Amérique. Mais où est le Congo dans tout ça? Vous passez 18 ans au niveau maternel, primaire et secondaire. Vous n'étudiez le Congo qu'en sixième et encore à passant. On n'a même pas le temps de se concentrer sur ces pays. Et pourtant, c'est le Congo qui nous concerne. Et si nous passons notre vie à admirer la France, à nous identifier à la France, nous ne sommes plus nous-mêmes. Et quand même on veut se donner des noms, c'est Richard Cœur des Lions qui vient, c'est Charlemagne qui vient, comme si dans notre culture, nous n'avons pas eu des grands rois. En matière de l'armée, il y a toujours dans chaque culture ceux qui sont appelés à défendre et à mourir pour les autres. À un moment donné de l'histoire, nous avons vu les Maï-Maï. Les Maï-Maï n'ont pas commencé seulement en RDC. Et ce n'est pas une histoire seulement de RDC. Il y a eu ce mouvement-là, des gens qui savaient que la terre, c'est la vie.
Par exemple, quand on parle de différentes communautés, on nous explique qu'il y a des clans qui sont faits des guerriers pour défendre toute la tribu.
Merci beaucoup. Avant d'aller sur une tribu précise, je veux commencer à dire que dans toutes les tribus, surtout les tribus sédentaires, parce qu'il y a des tribus qui étaient suffisamment sédentaires et d'autres étaient un peu nomades et chasseurs, alors ils devaient bouger de part en part. Toutes les tribus purement chasseurs sont des cultures guerrières, mais aussi toutes les tribus des cultures sédentaires ou agricoles ont dans leur sein une catégorie de personnes qui naissent avec cet appel à mourir pour la vie de la communauté. Parce que dès que tu deviens sédentaire, tu deviens la proie des guerriers et des nomades. Quand ils passent, ils trouvent la nourriture, ils vont nécessairement t'attaquer. Par exemple, pour les tribus agricoles, je peux parler des Nande, je vais parler des Hunde, des Nyanga pour ne rester qu'ici, mais je vais parler aussi des Congo, je vais parler des Mongo, je vais parler des Kassaïens. Dans ces tribus, un homme était défini d'abord par sa capacité à défendre sa femme. Maintenant, si tous les hommes naissaient égaux dans cette catégorie de défense de sa famille, les meilleurs parmi eux étaient ceux-là qui s'adonnaient à la défense de la vie communautaire. Et ce sont ces meilleurs-là, si nous quittons les niveaux communautaires pour le niveau national, c'est la réunion de ceux-là qui faisaient une armée nationale. Ce sont des gens qui sont appelés parce que ne devient pas militaire tout celui qui veut. Il naît avec ces dons-là de mourir pour les autres. Et ça, c'est dans la culture. Aujourd'hui, nous voyons les Wazalendo. Ce ne sont pas des voyous. Je sais que parmi les Wazalendo, il y a des gens qui sont venus se cacher là-dedans et aujourd'hui sont en train de ternir l'image des Wazalendo. Mais quelqu'un qui n'est pas payé, quelqu'un qui n'attend pas être général en RDC, qui n'attend pas être ministre, qui n'attend rien même de la ville de Goma, il veut tout simplement dire « Mon identité ne doit pas disparaître » parce que lorsqu'un étranger occupe ta terre, il occupe ta vie, parce que la terre, c'est la vie. Et quand on parle de la vie, on voit une femme. Et donc, la terre, c'est la vie, comme la femme, c'est la vie. Dès qu'on touche à la terre, c'est question de vie ou de mort. Et même dans nos cultures, il est dit ceci pour nous faire comprendre le niveau de défense. Quand la terre est attaquée et quand ton enfant est attaqué, la priorité, c'est la terre. Parce que sans la terre, on n'a pas des liens, on n'a pas aussi la force de faire grandir et la nation, et les enfants dont on veut faire la protection. Et que donc, l'identité vient avant tout de notre maman. Mais la terre, c'est la mère nourricière. Qui mange ce qui ne vient pas de la terre? Mais aussi, pour arriver à manger, la vie que nous avons, c'est la vie de la maman. Et notre première nourriture, c'est notre mère. Je dis à toutes les femmes, si vous avez accepté de mettre au monde, vous avez accepté que la vie continue. Le jour où vous accepterez de ne pas mettre au monde, c'est le jour où vous avez décidé de mettre fin à la vie. Parce qu'après une génération, une autre doit venir et ne viendra que de femme. À ce niveau-là, que tout homme là où il est, il doit savoir qu'au-delà du militaire, lui, même s'il n'est pas militaire, son premier travail, c'est protéger sa mère, protéger sa femme, protéger sa terre. Parce que c'est à partir de ces trois dimensions-là que naît la vie et la vie prospère. Sans terre, pas de vie. Sans mère, pas de vie. Quelle que soit la vie qui est sur terre, quelle est cette vie qui n'est pas attachée à la terre? Qu'on t'enlève sur terre et on verra quelle vie tu feras. Même les oiseaux, pour vivre, ont besoin de s'attacher sur un arbre qui prend ses racines où? Même le poisson va dire non, c'est l'eau, même l'eau. L'eau est là, mais en dessous de l'eau, on trouve toujours la terre. La mère, notre mère comme maman, elle représente la vie comme la terre représente la vie. Oui. Qu'on enlève la vie à ta mère lorsque tu es dans son ventre, tu viendras d'où? Qu'on enlève la vie dans la terre, d'où est-ce que tu tireras la nourriture? Or, pour vivre, tu dois manger. Et pour manger, il faut que la terre te donne à manger. Et c'est pourquoi les Blancs, ils ne cessent de nous tromper. Ils cherchent à nous montrer que la vie vient d'autre chose que de la terre. Regardez les gens qui ont beaucoup d'argent. Ils font tout pour acheter la terre. Pourquoi ils ne sont pas contents de rester avec l'argent en banque? Mais ils font tout après avoir eu de l'argent à acheter la terre. On nous trompe que ce qui nous manque, c'est l'argent. Non, il nous manque plutôt la capacité à aimer la terre, à la protéger et à l'exploiter pour vivre.
Dans ce cadre de patriotisme, vous dites que nous devions protéger la terre au premier niveau.
Je veux dire, si aujourd'hui on est en train de combattre la Russie, les gens ne comprennent pas. En Russie, aucun étranger ne peut acheter la terre. Tu veux acheter la terre, deviens d'abord russe. Mais au Congo, n'importe, même un Japonais peut arriver aujourd'hui au Congo et demain il est propriétaire d'une parcelle. Ouh, il y a risque demain que nous soyons des Congolais sans Congo. Le Congo risque d'appartenir aux Chinois, aux Japonais et nous, notre identité sera déjà partie. Après avoir connu que notre vie dépend de l'espace que nous occupons, même notre identité, quelqu'un va s'appeler Mukongo parce que son identité vient d'un espace qu'on appelle Bakongo ou Bandundu. Quelqu'un s'appelle Mongo parce que son identité dépend d'un espace qu'on appelle Équateur. Quelqu'un est Mounande pourquoi? Parce que son identité est attachée à un espace qu'on appelle Beni Lubero. Je suis Mouchi parce que mon identité profonde est attachée à une culture, à un espace qu'on appelle Sud Kivu. Si ma terre demain est occupée par quelqu'un d'autre, ça signifie que je suis comme un cadavre ambulant parce que ma vie dépend de l'espace. Et que donc, comme on ne peut pas accepter de que quelqu'un couche ta propre mère, la viole, c'est de la même façon qu'on ne peut pas accepter qu'un étranger vienne occuper l'espace sans que moi, je l'autorise à occuper cet espace. C'est comme si nous sommes morts, en fait. Si un étranger vient mettre sur ton espace un chef coutumier, ça signifie que cet étranger dit que tu n'existes pas. C'est en fait ça. Si un étranger peut installer un chef coutumier chez toi, sans respecter ta culture, cet étranger est en train de te dire « tu n'existes pas ». Mais encore dans nos cultures, pour dire que on ne doit jamais accepter qu'une femme souffre, qu'une terre soit occupée par un étranger. Il est dit chez les Chipas, et c'est la même chose chez les Nandes, c'est la même chose chez les Congo, c'est la même chose chez les Mongo, même chez les Rega. Si tu arrives dans un village, tu trouves femme et enfant en train de pleurer, c'est que les hommes n'existent pas. Et cet homme, aujourd'hui, on nous amène à dire que nous pouvons pardonner, il ne faut pas faire la guerre. Mais non, c'est faux, on nous trompe. Parce que notre identité dépend aussi de notre capacité à nous défendre. La terre se défend par le sang. Tout comme la mer, c'est par le sang qu'on la défend. Si nous, nous ne sommes pas prêts à mourir pour la RDC, pour cette terre, nous devons être sûrs et prêts à savoir que les autres sont déjà prêts à mourir pour nous la ravir ou nous rendre esclaves à vie. Et la meilleure façon de nous rendre esclaves, ils ont choisi deux façons. Soit nous tuer, soit nous tuer moralement. Parce que dès qu'on commence à violer nos sœurs, on commence à violer nos mamans, c'est une façon de dire « vous n'existez pas ». Autre façon, c'est dire « Mufunge Buzazi, fermez les naissances. Si nos mamans, vous ne mettez pas au monde, après une génération, qui viendront peupler le Congo ? Qui viendront peupler le Congo ?»
Monsieur Andera Baliamou, dans vos analyses, vous avez dit que c'est la terre qui donne la force en exil. On est faible.
Déjà, aller en exil, c'est vraiment l'extrême. Regardez nos mamans qui sont venues de Masisi, des Rutshuru. C'était des mamans en bonne santé. C'était des mamans qui avaient des projets. Mais du moment qu'on les a chassées de leur terre, elles sont venues à Goma. Elles ont quitté la vie pour la souffrance. Vous trouverez qu'une fois qu'elles ont quitté Rutshuru, Masisi, Lubero, pour venir ici à Goma, elles ont quitté la vie. La ville de Goma, c'est une prison à ciel ouvert. Quand on est en prison, on attend l'aide de ceux qui sont à l'extérieur. La ville de Goma recevait la vie des Rutshuru et des Masisi parce que c'est là, quand on parle de la terre, ce ne sont pas les bétons de Goma ici. C'est la terre qu'on peut cultiver. Et en plus, puisque la ville de Goma est une prison et en prison on a l'aide de l'étranger, voilà tout le monde ici à Goma, nous vivons de l'aide, comme n'importe quel prisonnier. Et nous nous trompons que la ville de Goma nous vivons. Non, la vie de la ville de Goma vient de nos villages et nos envahisseurs. Ils ont compris ça que s'ils prenaient la ville de Goma en premier, nous, en allant dans les Massis, dans les Rutshuru, nous allons reprendre la force pour reprendre Goma. Mais pour nous affaiblir davantage, ils ont commencé par les villages parce qu'ils savent qu'en ville de Goma, il n'y a aucune vie. La terre, c'est la vie. Et quand je parle de cette terre, c'est notre terre rurale. C'est notre terre qui produit la nourriture. La ville de Goma produit quelle nourriture? Voilà pourquoi j'insiste. En exil, il n'y a pas de vie. Parce qu'en exil, déjà, on nous interdit même de mettre au monde. On nous trompe ici avec des aides. Mais c'est juste une stratégie. La guerre nous tue, la guerre nous chasse de nos terres et arrivé en ville, on nous empêche de mettre au monde parce qu'on nous fait peur de mettre au monde et bientôt, nous allons rentrer chez nous. Beaucoup de vieux sont morts de soucis, beaucoup de jeunes sont morts de maladies hydriques et autres dans les camps et quand nous rentrerons chez nous, les femmes auront déjà stoppé les naissances. Après 25 ans, vous trouverez que la population n'augmente pas. Entre-temps, nos pays voisins ici continueront à déverser des personnes dans nos villages, dans nos champs. Et si même il faut parler de sécurité, qui viendra combattre pour récupérer les terres si jamais nos mamans ne peuvent plus mettre au monde? Il y a un principe de sécurité qui dit ceci. Si ton enfant n'est pas à mesure de te protéger, alors il te prépare, toi, à l'esclavage ou à l'exil. Parce qu'aucun étranger ne peut te protéger. Au contraire, il viendra te dominer. Nous sommes en RDC, nous savons qu'il y a des alliances. Si dans l'alliance tu es le plus faible, fais attention. L'alliance peut se transformer en domination. Donc ça, c'est déjà un appel aux jeunes, mais aussi à nos mamans. Apprenez-nous, avant tout d'abord, notre identité. Qu'on sache que quand on parle du Munande, des Mouchi, des Mukongo, la peur n'existe pas. Parce que même connaître notre identité, quand on t'appelle Congolais, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui peut maîtriser même la fureur d'un léopard, d'un lion. Ça signifie qu'un Congolais ne peut pas avoir peur de combattre pour sa terre. Mais voilà, nous ne connaissons même pas la définition du Congolais. On ne connaît même pas quel comportement on doit adopter pendant la guerre. Parce que de façon générale, il y a eu beaucoup de formations qui sont venues nous montrer qu'à chaque fois qu'il y a la guerre, nous devons fuir, entendre dans des camps. Et les droits de l'homme va venir nous remettre dans notre droit. Mais 30 ans après, on a compris qu'on devait nous apprendre plutôt à mourir pour ces pays. Pas à aller entendre que quelqu'un d'autre vienne nous aider. Parce que même si les gens veulent parler de la Bible, en Israël, ce sont les fils d'Israël qui sont prêts à mourir pour garder leur portion de terre. Mais nous, c'est devenu presque un réflexe. Dès qu'il y a attaque, nous fuyons comme s'il y a quelqu'un qui viendra nous donner la terre. La terre ne se donne pas. C'est par le sang qu'on protège la terre. Et nos parents ne nous l'ont pas donnée comme ça. Ils ont combattu pour la garder. Et c'est notre devoir d'épuiser dans notre histoire culturelle, d'épuiser dans notre tradition. Un chi, c'est un guerrier. Un murega, c'est un guerrier. Le Munande n'est pas seulement commerçant et cultivateur. Parmi eux, il y a des guerriers. Ce sont ces guerriers-là qui ont cet appel culturel à combattre qui doit aller se verser dans l'armée nationale afin que les traîtrises, le manque de patriotisme finissent. L'armée n'est pas une armée d'affairisme. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un grand problème. Les affairistes ont fait irruption dans l'armée. Je ne dis pas tous, je parle bien de certains. Alors, ils sont en train de faire les affaires au lieu de faire la guerre.
Donc, ils n'ont pas cet appel-là de l'identité à se donner pour la patrie.
Vous trouverez que quand on parle de l'armée nationale, on parle du symbole de l'unité nationale. Mais vous allez trouver aujourd'hui avec les mixages, les brassages, on amène quelqu'un qui est congolais à la première génération. Vraiment, vous allez m'excuser. Quand on parle de l'armée, on ne voit pas tout simplement les fantassins. Nous voyons tous les services de sécurité qui tournent autour de l'armée. Quelqu'un qui est congolais de la première génération, ça signifie son grand-père, son père n'était pas congolais. Sa mère n'était pas congolais. Donc, dans sa lignée, il est le premier à être congolais. Quelqu'un comme celui-là, on le met dans l'ANR. Comment est-ce que vous voulez qu'il ne nous trompe pas? Parce qu'il garde encore toutes ses attaches culturelles, historiques, traditionnelles à l'étranger du Congo. Parce que nous devons nous battre avant tout pour notre histoire. Notre histoire, en fait, c'est quoi? C'est comme les racines d'un arbre. Notre culture, ce sont les racines d'un arbre. Un arbre qui n'arrive pas à s'enfoncer dans ses racines, il n'en est pas un.
Donc aujourd'hui, on devrait se référer à nos traditions pour renforcer l'armée nationale.
Parce que chaque peuple se défend selon sa culture. Mais le grand problème, c'est que nos militaires congolais, ils apprennent chez les Français, ils apprennent chez les Anglais. Quel est l'art de la guerre congolaise? Mais dans la guerre congolaise, nous avons nos traditions. Quand on parle par exemple des militaires qui savent utiliser le force traditionnelle, ancestrale, ça existe partout. Il faut aller par exemple au Mali aujourd'hui. Ils ont fait toute une brigade de ces gens-là qui viennent de leur culture. On les a formés dans l'art militaire moderne, mais on les a permis d'utiliser leurs connaissances aussi traditionnelles des militaires qui disparaissent. Nous espérons que l'armée congolaise, avec le système de réforme qui est en cours, tout le monde doit participer. Ce n'est pas seulement l'affaire des spécialistes militaires, non. Un spécialiste militaire qui a étudié en France, ça c'est un Français à la peau noire. Mais tout ce qu'il connaît, c'est par rapport à la France. Qu'est-ce qu'il connaît par rapport à la RDC? Mais il y a ceux-là qui connaissent l'art militaire par rapport à nos traditions. Ceux-là doivent participer dans la réforme pour qu'ils apportent notre part de notre identité dans l'armée. Et cette part ne sera connue et vaincue que par des Congolais. Mais si nous, les Congolais, nous avons à faire la guerre avec les Rwandais et que nous utilisons l'art rwandais, il va de soi que les Rwandais vont nous gagner. Si nous faisons la guerre avec la France et que nous utilisons l'art français pour combattre la France, c'est normal que les Français vont gagner contre nous. Mais nous, Sans notre identité culturelle en tant qu'un peuple guerrier, en tant qu'un peuple qui défend sa terre, alors nous nous battons à perte. Parce que notre identité fait partie de notre force. C'est même notre force.
Ebale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali shenzela. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mitongo.
Ebale ya Congo, un beau titre de Papa Wemba pour le plaisir de tous ceux qui travaillent pour l'émergence du Congo. Vous écoutez Identité culturelle. Aujourd'hui, nous explorons comment nos traditions peuvent alimenter notre fierté nationale et renforcer notre engagement envers notre pays.
Radio Kapi, le souffle du Congo.
Nous poursuivons cette émission Identité culturelle avec vous, Monsieur Andera Baliamou. Prenons maintenant l'aspect du développement. Comment puiser dans nos identités pour développer la RDC comme il faut?
Les gens ont toujours imaginé qu'on peut parler de développement sans parler de sécurité. Aucun pays n'a pensé au développement avant de penser à leur sécurité. Donc, identité et développement, je vais parler de certaines cultures. Regardez par exemple, dans aucune culture en RDC, il est prévu que quelqu'un peut vivre de la mendicité ou bien de la tente. Dans toutes les cultures de la RDC, l'enfant naît, on lui apprend d'abord comment trouver sa nourriture, comment garder sa terre. C'est déjà ça l'identité et développement. Parce que le développement, c'est cette capacité culturelle pour chacun intellectuel à trouver les solutions à ses problèmes. Dans chaque culture, il y a des solutions. C'est lorsque nous voulons vivre dans la peau d'un blanc que naît la pauvreté et tous les problèmes. Vous regardez comme je suis en train de dire, c'est indigne d'un Congolais de vivre de la mendicité. Je veux parler par exemple du Munande, comme je travaille dans les Beni et Lulubero. Le Nande, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler nuit et jour. C'est pourquoi dans leur culture, lorsqu'ils font les champs, pas seulement les Nandes, mais j'ai vu ça même en province orientale et en Équateur. Quelqu'un est obligé de laisser sa femme. Il va vivre dans la brousse pendant un mois en train de cultiver et par après, il revient. C'est une façon de dire « je ne suis pas mendiant ». avec la guerre pour nous rendre la vie difficile. On nous chasse de nos champs et puis on nous laisse à vivre de la mendicité. C'est seulement une façon de nous enlever cette culture de l'autodétermination, de l'autodéfense et de nous mettre dans cette culture d'attentisme. Or, celui qui est dans une culture d'attentisme, on le prépare à l'esclavage. Un homme est homme les jours où il est capable de se défendre, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans défense. Ça n'existe pas. Tous les Français qu'on nous amène ici, c'est pour nous distraire. Celui qui aime le Congo devait avant tout apprendre aux Congolais à défendre leur patrie. Permettez, parce qu'il y a un lien entre identité culturelle et développement et identité culturelle et intelligence. En fait, la culture africaine et congolaise est avant tout scientifique. Quand nous parlons en Kinande, nous parlons de la science. Ce sont les colonisateurs, pour nous dominer, qui ont montré que notre culture, c'est du charabia et que leur culture, c'est de la science. Ainsi, vous trouverez que nous, les Congolais, on nous dit qu'il existe une langue scientifique et officielle. C'est le français et l'anglais. Comme si celui qui parle machi ne peut pas bien raisonner comme celui qui parle français, comme celui qui parle kimbuba, kitalinge, celui qui parle kinyanga, kiunde, ou bien kirega, ou bien kikongo, la langue du kasai, les chiluba. Donc nous commençons à penser que celui qui parle français, il raisonne mieux que celui qui parle toutes nos langues traditionnelles. C'est faux. Parce que tu ne peux pas me dire qu'un fou français qui parle français est plus intelligent que Mounande ici. Personne, même les fous anglais aux États-Unis, ils parlent anglais, mais il est fou. Et nos vieux ici qui parlent le Kinande sont plus intelligents qu'on nous laisse parler nos langues. Et imaginez-vous, nos enfants arrivent en sixième. Ils ne connaissent que le français, mais ils ne connaissent plus rien. Aucune solution dans leur vie, ils peuvent monter. Mais tous ces gens que nous disons, ils ne sont pas intellectuels, mais qui parlent seulement la langue traditionnelle, qui n'ont pas à être dans l'école de M. Gilles Ferry. Vous trouverez qu'ils connaissent que pour manger, il faut aller au champ. Ils connaissent qu'ils peuvent apprendre à être cordonniers pour avoir des souliers. Mais nos enfants, dans l'école de M. Gilles Ferry, ne parle que français. En fait, nos cultures et nos traditions sont une façon trouvée par nos ancêtres de diffuser chez monsieur tout le monde la science. C'est pourquoi à l'époque, tout le monde connaissait comment construire des maisons. Presque tout le monde. Tout le monde connaissait comment chercher du poisson. Tout le monde connaissait comment trouver à manger en termes de patates douces, en termes de bananerées, en termes de ce que nous consommons. Mais aujourd'hui, les enfants connaissent à parler français, mais ne savent pas comment on peut planter même un bananier, ne savent même pas comment on fait pour trouver des patates douces. Mais de quelle intelligence on parle?
Et donc, aujourd'hui, nous devons nous référer à nos traditions, à nos cultures, pour trouver des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face.
Si nous regardons très bien, avant l'arrivée de Blanc, nous vivons selon nos standards. Et en vivant selon nos standards, on avait tout. Même si on pouvait se battre, parce que la guerre fait partie de la vie, on ne se battait pas pour s'exterminer. Parce que dans notre culture, avant que le Blanc n'efface leur convention, le droit de la guerre existait dans nos cultures parce que jamais on pouvait tuer tout un village. Jamais. On se battait et après un certain moment, on protégeait. Dans nos cultures, on pouvait combattre, mais jamais on tuait par exemple les agriculteurs. Non, on ne tuait jamais les agriculteurs parce que ce sont les protecteurs de la vie. Et alors quand on attaquait les villages, on faisait tout pour garder les champs et les agriculteurs. On pouvait s'attaquer à ceux qui possèdent les pouvoirs parce que c'est de ça qu'il s'agissait quand on faisait la guerre. Mais aujourd'hui, regardez ceux qui nous attaquent en RDC. Ils commencent d'abord par s'attaquer aux champs, ils s'attaquent aux agriculteurs. Parce qu'ils veulent, ils font la guerre pour éliminer la vie. Mais dans nos cultures en tant que Congolais, on peut faire la guerre parce qu'il y a des problèmes qui nous poussent à en arriver jusque-là. Mais ce n'était pas pour annihiler la vie de l'autre.
Nous arrivons au terme de cette émission consacrée au patriotisme et à l'identité culturelle. Nous avons vu avec notre invité, M. Andy Rabaliamou, membre de l'organisation Ubuntu, comment nos racines culturelles peuvent être un puissant levier
pour renforcer notre sentiment d'appartenance à la nation. Merci à lui pour son éclairage. Un grand merci également à Jean-Marc Matouaki pour sa supervision. Je suis Rosalie Zawadi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Radio Okapi. Très bonne journée chez vous.